Bien, bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus pour cette rencontre, donc intitulée « Écriture avec peinture », un titre qui peut peut-être vous paraître un peu énigmatique, mais qui en réalité réunit deux auteurs avec deux romans qui se nourrissent et qui s'inventent même au contact de la peinture et qui prennent tous les deux pour point de départ l'un un peintre, Roberto Diaz Uribe, c'est votre roman Véronique Ovalde qui s'intitule « Soyez imprudents les enfants » et l'autre qui prend pour point d'origine un tableau. C'est votre roman, c'est un tableau de Georges de la Tour, et c'est votre roman Gaël Josse qui s'intitule « L'ombre de nos nuits ». Je commence en faisant de toutes petites présentations pour vous rappeler que Gaël Josse est diplômé en droit, en journalisme et en psychologie. Vous avez passé plusieurs années en Nouvelle-Calédonie et puis vous travaillez aujourd'hui à Paris. Après plusieurs recueils de poésie, vous avez publié un premier roman qui s'intitulait « Les heures silencieuses » en 2011. C'était aux éditions Autrement. Il y a eu ensuite « Nos vies désaccordées » en 2012, « Noces de neige » en 2013, et puis le dernier « Gardien d'Ellis Island » paru en 2014, et qui a notamment reçu le prix de littérature de l'Union européenne. Et donc « L'ombre de nos nuits » dont nous allons parler aujourd'hui, qui vient juste de paraître aux éditions Noir sur Blanc. Véronique Ovalde, vous êtes romancière, mais également éditrice chez Point, où vous vous occupez notamment de poésie, et puis aussi de romans noirs. En 2008, votre cinquième roman, « Et mon cœur transparent », qui était paru aux éditions de l'Olivier, a reçu le prix France Culture Télérama. L'année suivante, c'était donc votre sixième roman, « Ce que je sais de Vera Candida », toujours aux éditions de l'Olivier, a reçu le prix Renaudot des Lycéens, le prix Roman France Télévisions et le grand prix des lectrices de Elle. Et donc « Soyez imprudents les enfants » est paru chez Flammarion. Alors, vos romans sont extrêmement différents, mais ils ont en commun ce phénomène qui, dans les deux cas, a une présence vraiment fulgurante, qui est la révélation face à un tableau. Avant qu'on découvre vos textes respectifs, est-ce que la confrontation avec un tableau peut représenter dans la vie de quelqu'un un moment absolument décisif, quelque chose qui métamorphose le regard, qui change la façon de voir les choses? Ça peut être une expérience, disons, décisive?
Oui, bonjour à vous toutes, à vous tous. Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a saisi quand j'ai lu le roman de Véronique Ovalde, c'est de voir comment, avec des univers, des environnements, des contextes complètement différents, des personnalités complètement qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, il y a en commun ce moment de sidération totale devant un tableau et qui va prendre une place considérable dans une vie au point de l'infléchir complètement, comme chez Véronique, puisque ça va être le début d'une mécanique de recherche avec un vagabondage, une errance, jusqu'à trouver le pourquoi et jusqu'à ce que la narratrice se trouve. Et puis, donc, infléchir une vie, et dans celui que j'ai écrit, peut finalement réparer une vie. Voilà, puisque face à un certain regard, voilà, la narratrice, à partir d'un tableau, va revivre une histoire et pouvoir s'en libérer. Mmh. Donc ça, je trouve ça complètement fascinant, cette manière que l'art a quelquefois de savoir nous parler, nous interpeller, nous interroger dans nos vies et finalement nous jeter comme ça des clés qu'on va essayer de prendre et de les adapter aux serrures.
Ouais. Mais finalement, qu'est-ce que la peinture a de particulier et peut-être de différent par rapport aux expériences qu'on peut vivre à la lecture d'un roman? Qu'est-ce qu'un tableau peut déclencher de si singulier et de si fort? Parce que toutes les deux, c'est dans les deux cas, dans vos récits, ce sont des expériences vraiment très fortes et déterminantes.
Alors, je ne sais pas si c'est... Bonjour d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si c'est singulier, enfin je sais que c'est singulier en fait à la peinture. Mais c'est, on peut faire des expériences. Le terme qu'a choisi Gaëlle est très juste. Le terme de sidération. On est nombreux à avoir fait cette expérience de la sidération, que ça soit en écoutant quelque chose un jour, en lisant un texte qui va fondamentalement changer notre existence, ou face à une peinture. C'est, alors, je pense qu'il faut être dans un état de disponibilité aussi. Dans mon livre, c'est l'histoire. Enfin, ça se passe au moment de l'adolescence d'une personne, d'une jeune fille, parce que il me semble qu'à l'adolescence, on est dans cet état de disponibilité, d'attente. On attend qu'il se passe quelque chose, on attend un événement, on attend que survienne quelque chose. Et donc, il me semble que là, c'est parfait. Et on est d'ailleurs nombreux aussi à avoir lu un texte qui a changé notre vie quand on était adolescent, où là, on a découvert ce qu'on voulait être, ce qu'on voulait faire. Alors moi, en tout cas, il m'est arrivé une expérience un peu du même genre avec des livres très souvent, mais avec une peinture quand j'avais 15 ans. J'ai vu une toile de... Alors, ça n'avait rien à voir avec Roberto Dias Uribe, le peintre dans mon livre, puisque la toile que voit la jeune fille, c'est une toile aux dimensions spectaculaires, mais qui représente en fait une femme nue. Et donc la nudité, justement, dans le contexte où elle est, c'est-à-dire qu'on est dans l'Espagne post-franquiste, la nudité, le corps mis à nu, c'est quand même quelque chose de très, très... subversif encore, et donc spectaculaire pour elle, pour la jeune fille. Mais donc, en ce qui me concerne, ça n'a pas été du tout ce genre de tableau, mais je me souviens, donc à 15 ans, je suis allée avec l'école. Alors c'est drôle ce que je vous raconte ça, mais en fait, quand j'ai écrit le livre, je ne me souviens pas que j'ai vécu cette scène, en fait. Et j'écris cette scène où la gamine va avec l'école voir un tableau, va voir une exposition, et puis tombe sur un tableau qui va orienter sa vie. Au moment où je l'écris, je ne pense plus du tout à ça, mais comme quoi c'était caché dans un petit tiroir, comme d'habitude. Et c'est après coup, je me suis dit, mais au fait, s'il m'est arrivé la même chose, avec un tableau de Jackson Pollock. Donc je ne sais pas si vous voyez qui est Jackson Pollock, qui est donc ce peintre expressionniste abstrait américain des années 50. Et c'était je connaissais pas Jackson Pollock avant, et c'était une expo sur les années 50 qu'il y avait au musée, au Centre Pompidou, et donc la toile par laquelle on entrait finalement dans l'exposition, c'était une toile avec aussi des dimensions absolument extraordinaires, et donc c'est ce dripping là, ces coulures qu'il y avait, cette violence et qu'il y avait dans les toiles de Pollock. Et moi, j'ai eu ça m'a fait cet effet là. Évidemment, Jackson Pollock n'est pas comme Roberto Dias Uribe, il n'a pas disparu en orchestrant sa disparition, enfin, il n'est pas le cousin de mon père, enfin voilà, mais donc il y a des choses qui n'ont rien à voir, mais en tout cas, voilà, moi j'ai connu ça, on est nombreux à l'avoir connu, et ça oriente parfois notre existence, en tout cas on espère que ça va l'orienter très souvent.
Moi, j'ai été frappée par une chose, Véronique Ovalde, c'est quand on se dit que la peinture est un motif aussi important dans un roman et qu'il déclenche donc tout le récit. On s'attend à ce que la peinture soit extrêmement décrite dans le détail et qu'on ait tout ce travail de description extrêmement long, comme le roman sait très bien le faire parfois. Or là, vous avez fait le choix d'à peine décrire le tableau. On sait que c'est un nu, donc vous venez de le dire. On sait que la femme a une peau bleutée qui ressemble un peu à du marbre. Au fur et à mesure, on découvre des choses sur la peinture de ce peintre, de Dias Uribe, mais au départ, il n'y a pas vraiment de description, ce qui fait qu'on est dans une sorte de mystère quand même.
Oui, parce que ça ne me semblait pas nécessaire de dire précisément à quoi ressemblait ce tableau, puisque ce qui est intéressant surtout ici, c'est l'effet qu'il produit sur la jeune fille, et au fond c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui va gouverner en quelque sorte la fiction même, hein, et le texte. Donc on dit vaguement ce que c'est et je vous laisse imaginer ce que c'est. Donc il y a un carrelage, en effet il y a une femme nue qui a la peau nue et qui a la peau un peu transparente et qui elle-même a des dimensions au-delà des dimensions humaines, et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Et après c'est le choc, l'immense choc que ça crée chez cet enfant.
En fait, c'est un tableau, on peut dire, qui fait sortir cette jeune fille qui a 13 ans dans le roman, qui la fait sortir de l'enfance, et une enfance où de surcroît elle s'ennuie, elle est en attente de quelque chose.
On s'ennuie beaucoup, hein, pendant l'enfance. Moi, je me suis beaucoup ennuyée. Je ne sais pas si vous vous êtes ennuyée. Moi, c'était terrible. Donc, j'attendais que ça s'arrête, j'attendais que ça finisse.
Et quand même, le temps de l'enfance est un temps très long, il me semble, qui n'a rien à voir avec le temps qu'on vit quand on est adulte. Et ça s'étire. Et parfois, on a cette impression quand même que dans le roman, je dis qu'elle a l'impression que le monde devient une crampe. C'est qu'en fait, tout est totalement crispé et elle attend. Et donc, elle est prête. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle est disponible. Mais cette longue attente de l'enfant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant quand on écrit, c'est qu'on réactive, surtout quand on écrit sur l'enfance ou l'adolescence ou la jeunesse, on réactive en fait quelque chose de soi. On réactive l'enfant en soi, en fait. Donc, il me semble, il y a beaucoup de passages dans ce roman qui disent, par exemple, toutes les questions secondaires qu'une adolescente se pose. Sur la féminité, ou pas la féminité d'ailleurs, sur les hommes, les femmes, les relations entre les gens, et qui sont ces gens qui sont aux terrasses des cafés l'après-midi, comment gagnent-ils leur vie, et des questions beaucoup plus triviales, mais qui sont des questions qu'on se pose aussi à ce moment-là, pourquoi le pain devient dur alors que les gâteaux deviennent, les biscuits deviennent mous. Et donc il y a des listes de questions comme ça qui sont un peu les questionnements qu'on a aussi quand on est gamin, on comprend rien quand même à ce qui se passe autour de nous. Et en plus, on est interpellé par tout un tas de questions qui sont extrêmement secondaires. Donc il y avait ça, et à la fois aussi, il y a aussi tout un chapitre sur le fait que... Le chapitre s'appelle... Avant toute chose, déterminer ce qu'on ne veut pas être. Voilà, pardon. Avant toute chose, déterminer ce qu'on ne veut pas être. Et donc, il me semblait aussi que dans l'adolescence, dans l'enfance, on sait avant toute chose... ce qu'on ne veut pas être, donc souvent on ne veut pas ressembler à ses parents. Et puis après, on peut déterminer, on peut trouver un modèle.
Alors on va dire encore une ou deux choses pour présenter votre roman, Véronique Ovaldé, puis après on présentera le vôtre, Gaëlle Josse. Athanasia, puisque c'est le nom de cette jeune fille, va faire de ce tableau de Dias Urrubé une obsession, c'est le terme que vous employez, hein, c'est une véritable obsession. Et en fait, cette obsession va la mener très loin, puisque donc il y a toute une quête qui se développe dans le roman, qui est un roman à tiroir, donc il y a beaucoup d'histoires enchâssées les unes dans les autres. Mais disons qu'il se déroule essentiellement sur deux plans, la quête du peintre, ce fameux peintre mystérieux qui a disparu, et voilà, dont elle veut retrouver la trace. Et puis parallèlement, elle remonte toute la généalogie de sa famille, dont elle est la dernière à porter le nom, en fait. Hein, donc c'est une quête aussi qui la fait remonter dans le temps, dans la mémoire. Et
les deux sont des quêtes identitaires, au fond, parce que on construit son identité comment ? Donc avec des modèles ou avec des contre-modèles, hein, et puis avec des obsessions, avec des idées fixes, bien entendu, mais aussi avec ce qu'on vous a dit, les récits, qu'on vous a fait de votre propre enfance et de votre famille. Et là, en fait, ça m'intéressait le fait qu'elle est la dernière des Bartholomé. Et donc, elle va tirer le fil de cette généalogie pour essayer de percer des secrets, des fatalités, en fait, familiales. Et il y a toujours des fatalités familiales. C'est systématique. Il y a des choses qui se répètent. On le sait tous. Même si on ne veut pas répéter les choses, on répète les choses. Donc, on voit bien qu'on porte quelque chose, parfois, de façon... même si on est très lucide, on porte quand même quelque chose dont il est parfois très difficile de se débarrasser. Et du coup, ce qu'elle voit, elle, le lien qu'elle voit entre tous ces hommes de cette famille, c'est que ce sont tous des aventuriers, ce sont tous des hommes, hein, depuis le XVIe siècle, qui ont voulu changer le monde, qui ont eu une espèce de fantasme de collectif, en quelque sorte, communautaire, et qui ont été tous démangés par l'appétit, en fait, de l'ailleurs, du vaste monde. Ils sont tous partis au-delà des mers, enfin, où ils ont essayé. Et donc, la personne qui va recevoir ça, et maintenant, qu'est-ce qu'elle va en faire de ça ? Alors, qui est-elle, elle ? Comment elle peut récupérer tout ça ? Et sachant qu'en plus, moi, ce qui m'a toujours beaucoup amusée, c'est que, je disais ça tout à l'heure à l'émission d'Emmanuel Kérat, c'est qu'on a tendance quand même à considérer notre famille d'abord par le nom que nous portons, et alors que ce qui est le cas d'Athanasia Bartholomé, donc elle va s'intéresser au Bartholomé. Et en fait, ce qui me sidère toujours, c'est qu'au fond, il n'y a rien de plus hasardeux que le nom que nous portons, puisque c'est le nom de nos pères et nos pères sont hasardeux de fait, et ce sont, comme je disais tout à l'heure, nos mères qui nous disent que ces hommes-là sont nos pères, sinon ils ne le seraient pas. Donc ça m'amuse qu'en fait on soit dans une espèce de, non pas de lien du sang, mais de lien du nom.
Là, en plus, ce qui est quand même assez formidable et qui fait effectivement que les deux quêtes se rejoignent, c'est que lorsque Athanasia a cette révélation face au tableau, elle ignore totalement que le peintre est en réalité le cousin de son père.
De sa famille, oui, voilà.
Voilà,
oui.
Donc, là,
ça ajoute quelque chose. Et puis, du coup, c'est un personnage supplémentaire dans cette lignée d'hommes qui avaient des aspirations pour créer des collectivités utopiques.
Alors elle se met donc en quête du peintre, ce qui va la faire voyager, elle part pour Paris, et là il y a un personnage absolument formidable, parce qu'elle a retrouvé le grand spécialiste donc d'Uribe, qui est un certain Vladimir Velevine, un vieil alcoolique russe qui a découpé des coupures de presse sur le peintre depuis des années, qui a commis 2 livres sur ce peintre-là, et qui a fait... Et ça, c'est aussi une idée magnifique, ce constat quand même incroyable, que tous les gens qui s'approchent du peintre disparaissent. Ça, c'est quand même un des ressorts les plus forts du roman.
Oui, en fait, il y a le fait que lui a disparu, donc le peintre a disparu, et que tout, en effet, il s'est rendu compte que les gens disparaissaient autour de lui. Alors, il ne sait pas exactement pourquoi, mais il se doute évidemment que ces gens sont dans l'entourage, se sont mis dans l'entourage du peintre, et le fait d'être... un satellite du peintre fait que vous êtes appelé à disparaître. Mais du coup, lui, c'est ça qui l'intéresse. Et pourquoi est-ce qu'on devient un satellite de quelqu'un comme ce peintre? Pour comment, en fait, on accepte en fait la soumission ou la servitude à la volonté de quelqu'un comme ce peintre, qui a quelque chose d'un peu d'un gourou en quelque sorte. Et lui, Vladimir Velevine, et voilà, c'est ça qui l'intéresse, et c'est ça qu'il va essayer de faire passer à Athanasia Bartholomé. Mais lui, évidemment, oui, c'est un personnage très très haut en couleur. Il est atteint du syndrome de Diogène. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le syndrome de Diogène, c'est le fait d'accumuler des choses. Vous savez, c'est ces gens qu'on s'aperçoit quand on rentre dans leur appartement qu'ils accumulent des bouts de papier depuis 152 ans, et on peut quasiment plus mettre un pied devant l'autre dans leur maison. Et lui, il a cette tendance à l'accumulation. Il peut même plus prendre de bain, puisqu'évidemment sa baignoire est envahie de vieux journaux. Et donc, voilà, lui-même, il finit par disparaître dans cette recherche.
Alors Gaëlle Josse, L'ombre de nos nuits commence, comme le roman de Véronique Ovaldé, sur une révélation face à un tableau. Mais à la grande différence de son roman, et pour vous c'est indispensable, il y a une longue description de ce tableau de Georges de Latour. Alors en plus, description qui est accompagnée dans le roman par le fait qu'il est reproduit, parce que c'est très important qu'on l'ait tous finalement sous les yeux pour lire le récit.
Oui, c'est vrai. Autant dans le roman de Véronique, la toile est simplement évoquée. On sait ce qu'elle produit. On sait que ça va être la pierre jetée dans le lac, l'image de circonstance. Et puis après, on oublie presque ce tableau et on se concentre sur la personnalité étrange, mystérieuse de ce peintre. Alors, dans l'ombre de nos nuits, les choses partent de cette même sidération d'une femme qui, au détour d'un musée, un peu par hasard, est arrêtée par ce tableau et par le regard qu'une jeune femme... porte sur un homme blessé dont elle tente de retirer une flèche. C'est un Saint-Sébastien soigné par Irène. Et c'est ce regard de compassion, de tendresse, d'inquiétude qui va immédiatement la renvoyer à une histoire passionnelle assez destructrice dans laquelle elle s'est abîmée en voulant précisément réparer, soigner un homme de la même manière. Alors, la différence... La différence, c'est que j'ai moi-même été tellement happée par ce tableau que j'en ai été très, très curieuse et que j'ai choisi de donner la parole au peintre et d'explorer le processus de création de la page blanche, de la toile blanche, jusqu'à l'œuvre achevée. En rentrant dans l'atelier, dans l'âme, dans le cœur, dans le corps, dans la main du peintre, et en essayant de, voilà, de l'accompagner dans tout ce mystère qui est toute la création. Mmh. Et puis qu'entre la toile blanche et la page blanche, finalement, il y a un certain nombre de similitudes. Et puis j'ai fait le choix aussi de donner la parole à une troisième voix, qui est celle de l'apprenti chargé de copier cette toile, parce qu'à ma très grande surprise, en m'approchant de la toile dans le musée, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un original, d'une copie d'un original perdu. Donc ça, pour un auteur, je dirais que ça ouvre des portes d'imaginaire absolument fabuleuses. Et j'ai imaginé, à l'époque de la Tour, un orphelin de la guerre de 30 ans, puisqu'on est dans l'époque de la Lorraine, qui vit une époque extrêmement troublée, extrêmement cruelle.
Oui, c'est la guerre de 30 ans.
C'est la guerre de 30 ans, c'est la soldatesque qui viole, qui pille, qui tue, c'est la peste, c'est la famine. Et donc cet orphelin recueilli qui s'avère extrêmement doué, qui va un peu devenir le fils spirituel, qui va chercher sa place, et là aussi qui va un petit peu faire son, ben, comme chez Véronique, une histoire d'apprentissage, voilà, de trouver sa place dans cette famille qui l'accueille, auprès de ce modèle, auprès de la jeune femme qui est peinte, dont il va évidemment tomber amoureux, et ça va être aussi une transgression sociale, puisqu'il n'est qu'un domestique. Et les trois voix et les deux époques se mêlent. Donc il était nécessaire d'avoir tous ces allers-retours par rapport au tableau, puisque c'est vraiment les personnages prennent vie, les modèles sont la fille du peintre. Donc c'est un échange de regards entre le peintre et son modèle, le copiste et le modèle lui-même qui regarde peut-être ailleurs. Donc il était important qu'on arrive à un peu à le visualiser.
Et d'ailleurs, le seul lien entre les deux récits qui s'entrecroisent dans le roman, c'est précisément ce tableau-là, puisque entre Georges de la Tour en train de créer ce tableau dans son atelier, assisté donc par ce fameux jeune homme, et cette jeune femme dont on ne saura jamais le nom d'ailleurs, qui a une révélation face au tableau, il n'y a pas d'autre lien que le tableau.
Oui. Le lien pour moi, c'est le regard. C'est-à-dire comment quelque chose qui a été peint il y a plusieurs siècles va à un moment venir nous parler de nous, de notre intimité. Puisque ce que pense cette femme, enfin ce que j'ai pensé à un moment en découvrant ce tableau, et puis après la narratrice a pris un petit peu le large par rapport à ma propre histoire, c'est de se dire mais moi aussi, c'est avec ce même regard que je l'ai aimé. Et à partir de ce moment-là, la mémoire se remet en route et elle va adresser à cet homme, elle va revivre, réactiver cette histoire et pouvoir se délivrer de finalement ce qu'elle n'a jamais dit. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu cathartique.
Et puis alors il y a tout le processus de la création, puisqu'on suit étape par étape. Alors à l'époque, Georges de la Tour, on préparait la toile, on préparait les pigments, les couleurs, on voit les modèles qui viennent poser. Je ne sais pas si vous avez le tableau en tête, si vous voyez ce... Moi non plus, c'est dommage, mais il est très connu. Enfin, je pense que voilà, quand vous allez le voir, vous allez dire, ah ben oui, bien sûr, on le connaît tous en fait. C'est vraiment un tableau d'une facture. Il est absolument magnifique. Et donc, vous nous faites suivre tout le processus de la création du tableau.
Oui, et ce que j'avais aussi envie de mettre en tension en rentrant dans l'intimité donc, du créateur, c'était de mettre en tension à la fois l'homme et l'artiste. L'homme qui n'est pas un individu tous les jours facile, tous les jours recommandable, il est ambitieux, il est brutal, il n'est pas forcément attentif à ce qui se passe chez lui, à ses proches. Mais à un moment, tout ça, ça s'efface, ça s'arrête à la porte de l'atelier. Et là, l'artiste donne le meilleur de lui-même. Donc c'est voilà, cette tension entre l'homme et l'artiste que je trouve, moi, toujours extrêmement fascinante. De même que chez Véronique, on va le découvrir peu à peu, Diaz Uribe. Puis on va voir qu'il est quand même assez particulier.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Pas forcément extrêmement fréquentable ou recommandable, mais qu'à un moment... Tout ce qu'il a pu être, tout ce qu'il a été, ça s'arrête au moment où il peint cette femme qui est venu bouleverser la jeune fille.
Il faut dire quand même, Gaëlle Josse, que dans l'histoire de Georges de la Tour, qui à l'époque où vous le prenez est déjà un peintre assez connu en Lorraine, il a une notoriété locale, disons, assez importante, il y a un enjeu autour de ce tableau-là, parce qu'il prend la décision, et là c'est une décision conséquente, d'aller présenter ce tableau-là au roi, donc de l'emmener à la cour, de le faire voyager, et c'était pas rien de faire voyager un tableau à l'époque, vous faites toute la description d'ailleurs, et l'emmener chez le roi, c'était un geste...
Oui, c'était une décision forte, mais celle d'un homme ambitieux, qui est assez sûr de son art, et puis qui est aussi un homme un peu insatiable, toujours plus, qui a des ambitions extrêmes. Et donc, voilà, on va assister au cheminement de tout ce qui s'est passé dans le secret de l'atelier, finalement, entre la toile et lui, pour prendre le large et être emmené vers son destin.
Il y a quelque chose dans ce roman qui est, vous disiez, c'est le regard qui vous intéresse. Qu'on peut mettre en opposition, il y a d'une part l'aveuglement amoureux de la jeune femme qui a une révélation devant le tableau, et puis bien sûr tout le travail sur l'ombre et la lumière qui est un peu la caractéristique de la peinture de Georges de la Tour, et dans ce tableau-là c'est assez extraordinaire d'ailleurs le travail sur la lumière qui est...
C'est vrai que l'ombre et la lumière, c'est peut-être la métaphore de nos vies la plus évidente, où on sait que les deux sont toujours relatives et n'existent que l'une par rapport à l'autre. Mais c'est vrai que ce que j'ai voulu mettre au centre de cette histoire, c'est cet aveuglement amoureux de cette femme qui vit une histoire qui, de toute façon, ne lui était pas destinée. Mais ça, c'est toujours après qu'on le sait. Et comment est-ce qu'on peut, quand on aime quelqu'un, être à un moment sourd, aveugle, à toute raison? Pourquoi est-ce qu'on va s'abîmer, au propre comme au figuré, dans des histoires qui ne nous sont pas destinées? Parce qu'à un moment, l'amour qu'on éprouve, qu'on porte à quelqu'un, nous semble plus grand et plus important que tout, et que donner nous semble l'essentiel, même si après c'est pas toujours simple. Et surtout, j'avais envie d'explorer à quel point on est nu, on est démuni quand on aime.
Et là, ce qui est très fort, c'est le fait que ce soit la peinture qui permette à votre personnage de trouver les mots qu'elle n'a jamais pu trouver précédemment. C'est grâce à ce tableau qu'elle réussit à mettre en mots cette histoire qui est une histoire d'amour dans laquelle elle a, on dira, laissé quelques plumes. On peut dire...
Des choses qui arrivent à tout le monde.
À tout le monde, c'est ça. Mais c'est la peinture qui...
Oui, la peinture qui sert de révélateur, comme ce tableau d'Uribe va à un moment décider du destin et l'amener cette jeune fille à l'exploration de secrets. Et c'est cette vibration qu'il peut y avoir dans une œuvre qui, à un moment, va nous attraper physiquement, nous saisir et nous emmener sur des terrains, sur des ouvertures auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est ça que j'attends de l'art. C'est pas l'émotion esthétique. C'est pourquoi est-ce que c'est ce tableau qui, à un moment, m'attrape et va décider quelque chose pour moi.
On parlait d'ombre à l'instant, Véronique Ovaldé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, qui là aussi, je trouve, est une image très forte. C'est que la caractéristique des tableaux de votre peintre, d'Uribe, c'est le fait qu'au fur et à mesure que le temps passe... Les images finissent par s'éclaircir, les formes s'estompent, ce qui fait que sur ces tableaux les plus anciens, il reste pratiquement que des ombres, justement. Donc c'est tout ce travail du temps.
Ah non, c'est pas du tout ça. Ce qui se passe,
c'est pas
c'est
ça.
Plus on travaille, c'est intéressant.
Moi, je l'ai lu comme ça. Ouais.
Comme une déliquescence, en fait.
Oui.
Mais en fait, non.
Comme la disparition.
Pas, c'est lui qu'en fait plus il. Oui, un truc à la voilà, Dorian Gray ou à je sais pas quoi,
oui.
Comment ça s'appelle ce l'histoire du portrait,
De Dorian Gray.
Non, pas le portrait de Dorian Gray, mais il y a une histoire aussi une histoire fantastique, très classique, dans laquelle il y a un peintre qui veut peindre sa femme et plus il la peint, et puis elle arrive sur la toile et puis elle s'étiole de plus en plus jusqu'à mourir. Ça vous dit rien ?
Non, ça je connais pas.
Alors, en fait, non, pour en venir à mon affaire, c'est que c'est pas du tout les personnages qui sont présentés et qui s'étiolent et qui disparaissent. C'est plutôt que lui, dans sa technique, dans ce qu'il est en train de faire, de créer, c'est que lui, en fait, plus il avance en âge, et plus, en fait, son art devient abstrait, de moins en moins figuratif. Et en fait, ce sont les figures, elles, qui disparaissent de son art. Parce que peu à peu, on a presque que des pièces vides au fond. Donc c'est lui qui est dans ce mouvement-là. Mais parce que il me semble que ça correspond aussi à des interrogations de créateurs. On a commencé à faire des portraits, on a commencé à écrire des romans avec des personnages, et évidemment les choses se modifient, les choses changent. On fait des variations toujours sur la même. Enfin, on passe notre temps à creuser le même sillon, c'est normal, mais en même temps il y a ces variations, elles vont vers quelque chose, et souvent elles vont vers une épure, très souvent, et une épure, et du coup vers pour un peintre, j'imagine que ça va vraiment vers quelque chose où les figures disparaissent.
Ben là en l'occurrence c'est un peintre qui a un motif pratiquement unique dans son travail pictural, qui est le motif féminin. En fait il ne peint que des femmes.
Sa femme et ses filles, en fait. Ouais, il a cinq filles et il les peint. Alors, il les peint les unes avec les autres ou pas, ou seules. Mais du coup, oui, lui-même, il est obsessionnel. Mais je suis convaincue, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on ne fait rien sans obsession, sans idée fixe. Donc, je pense que c'est ça. On creuse. Hein. On creuse tout le temps quelque chose et on cherche à. Je ne sais pas, j'ai l'impression que parfois, écrire des livres, c'est comme. Pas comme pour un peintre quand il peint, c'est comme essayer de percer un mystère. En permanence. Donc ce mouvement du dévoilement, il est très important, il me semble.
Oui, c'est vrai qu'on écrit, j'espère, pas toujours le même livre, mais tout du moins, c'était mes variations autour de quelques obsessions. Et peut-être, en effet, qu'à un moment, je crois, oui, on se dirige vers une certaine épure. Moi, je me rends compte que j'ai je ne sais pas si c'est bien ou je ne sais pas, de moins en moins envie d'écrire des histoires, des choses où il se passe des tas de trucs, des intrigues compliquées, voilà. Ça m'intéresse de moins en moins. J'ai de plus en plus envie d'aller vers le fil à plomb qui descend, vraiment se centrer sur l'essentiel, sur la matière, plus sur le récit que sur le roman. Bon, c'est une manière d'épure ou de recherche comme une autre. Donc ce peintre, en effet, qui finalement arrive presque à peindre des choses extrêmement évanescentes, presque du vide, moi, ça m'a beaucoup parlé.
Il y a peut-être une sorte de paradoxe, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais dans le fait, quand on est écrivain et qu'on travaille avec un matériau qui est celui des mots, de se confronter à l'expérience de la peinture, qui est un art et un processus de création qui, lui, s'abstrait justement de l'usage des mots. Donc c'est une sorte de, peut-être, je ne sais pas, de défi, le fait de se confronter à l'expérience de la description ou de la mise en récit de la peinture.
En fait, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours eu, pourquoi toujours d'ailleurs. En fait, j'ai parfois eu du mal avec les livres, par exemple, qui parlaient de musique, parce que il me semblait que les mots n'étaient pas du tout le meilleur outil pour parler de la musique. Donc, justement, parler d'un autre art, ça me paraissait inadéquat très souvent. C'est sans doute pour ça aussi que finalement je le décris très peu, cette peinture, que je peux en parler comme d'un processus qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la personnalité de ce peintre et puis la recherche de cette jeune femme, de cette jeune fille et de ce mouvement dont je parlais vers une connaissance de soi. C'était ça qui m'intéressait, mais j'aurais jamais, enfin je dis ça, puis en fait la fois dernière, mon dernier bouquin, La Grâce des Brigands, j'ai écrit un livre qui racontait l'histoire d'une romancière, et je m'étais dit avant, jamais je ferais ça, c'est insupportable, les écrivains qui écrivent des histoires d'écrivains, c'est des trucs de corporation et tout ça, et donc voilà, je finis toujours par faire ce que j'ai dit que je ferais pas.
Alors, juste pour compléter, je dirais que pour moi, je n'ai pas du tout de théorie là-dessus, d'écrire sur la peinture, pas écrire, pourquoi, comment. La seule chose qui déclenche le désir d'écrire, qui met en route la caméra oscura mentale, c'est pour moi une émotion, voilà, un choc émotionnel, une rencontre qui peut être avec quelqu'un, avec un lieu, avec un moment, avec une musique, avec une peinture. Donc là, voilà, là c'était une peinture qui a mis en route de manière extrêmement violente, extrêmement puissante, des choses très, très, très profondes apparemment. Et ensuite, la fiction prend le relais. Mmh. Mais non, pareil, j'aurais du mal à avoir une réflexion systématisée là-dessus.
Puisque vous parlez là d'émotion, il y a peut-être une chose sur laquelle on n'a pas suffisamment insisté, c'est le fait que dans votre récit, votre personnage de femme est incroyablement touché par, et c'est vrai, quand on regarde le tableau, on est effectivement soi-même bouleversé par ça, la tendresse énorme du personnage dans le tableau d'Irène, donc qui est en train d'extraire une flèche dans la cuisse de Saint-Sébastien, et dans son geste il y a une délicatesse et une attention magnifique, quoi, qui est très
cette envie de soigner, de réparer, et puis peut-être surtout de ne pas aggraver la blessure. Et je me suis dit que c'était ça, finalement, aimer quelqu'un. C'était aussi avoir envie, quelque part. Alors après, bon, il y a des limites, parce qu'il ne faut pas non plus se perdre complètement. Mais il y a un moment où on a envie de prendre ce qui le blesse et de le réparer. Et puis ce tableau, il avait d'autres côtés qui m'ont beaucoup intriguée. C'est qu'en fait, c'est un tableau donc avec un sujet religieux. Mais quand on le regarde de près, on voit une peinture où il n'y a aucun symbole religieux. On voit simplement un jeune homme, presque nu, une jeune femme. Ils sont tous les deux dans leur bulle de nuit, de tendresse. Et il y a quelque chose de très sensuel, de très intime, de très charnel, presque d'érotique dans cette scène. J'ai trouvé que pour un tableau religieux du 17e, c'était surprenant. Donc ouais, ça a été aussi un questionnement supplémentaire qui a fait que je me suis intéressée à ce...
Et c'est vrai qu'aussi Georges de la Tour a fait porter toute la lumière du tableau sur les mains d'Irène. Le tableau est très sombre, on devine un arrière-plan, mais vraiment on le voit pas très bien. Et toute la lumière est sur ses mains. Donc ils sont en train de faire le geste, qui est un geste assez violent au fond, d'extraire la flèche, et sur son visage.
Oui, il me semble que ce regard d'extrême tendresse, mais en même temps de tendresse intranquille, c'est le regard qu'on porte quand on aime, ou tout du moins quand j'aime, c'est-à-dire un mélange de sollicitude, de tendresse, et puis toujours un fond d'intranquillité. Et il m'a semblé que ce regard, c'était vraiment parfaitement ça. Mmh.
Ouais. Ce que vous avez, je crois, toutes les deux en commun dans vos romans, c'est le fait d'utiliser la peinture et les tableaux comme au fond des outils d'accès à la liberté, enfin une conquête de liberté pour vos personnages respectifs. En fait, c'est grâce au tableau, grâce à la peinture que voilà, s'enclenche la quête, le processus de mémoire et de délivrance. Oui, voilà, ça vous est commun.
C'est l'impression que j'ai eue en lisant les deux livres, c'est qu'en effet, l'art, à un moment, comme on disait tout à l'heure, possède peut-être des vertus curatives, ou tout du moins des clés, des propositions qui nous sont faites, et c'est à nous de les prendre ou de ne pas les prendre, de les suivre ou de ne pas les suivre, mais ça peut en effet nous emmener vers une conquête de sens de nos vies. Oui.
Mmh. C'était le but de raconter cette histoire d'accès à la liberté de cette...
Oui, je ne sais pas exactement si c'était ça le but, mais en tout cas, c'est l'un des biais. L'art est l'une des façons de conquérir, de s'affranchir et de conquérir sa liberté, que ce soit la peinture ou plus immédiatement, j'allais dire, les livres. C'est vrai que les livres sont quelque chose qui sont quand même... nous aident, en fait, à nous émanciper. Ça me semble très, très clair. Je pense que c'est très clair pour tous les systèmes coercitifs, d'ailleurs. Il y a quelques mois, je suis allée en Inde et en fait, il y avait tout un tas de choses qui étaient interdites. Il était interdit d'apporter des armes, bien entendu, des bombes, ça on voit à peu près. Et il y avait écrit qu'en fait, vous pouviez apporter des livres, mais qu'on pouvait vous les retirer, en fait, si on jugeait qu'ils n'étaient pas du tout adéquats, justement. Et je me suis dit, c'est dingue, en fait, c'est qu'on oublie dans nos contrées combien les livres sont dangereux et porteurs, justement, d'émancipation. Parce que pour nous, c'est évident, c'est facile, et nos enfants, ils en ont tellement marre qu'on leur dise de lire des livres qu'ils n'en lisent plus, alors qu'en fait, il n'y a pas plus subversif qu'un livre. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la première chose qu'on supprime et qu'on contrôle et qu'on censure dans les systèmes totalitaires. Donc c'est là où on... C'est pour ça qu'en fait c'est encore plus fort, évidemment, je trouve, dans l'œuvre écrite, parce que c'est presque plus... Ça ne fait pas appel à une révélation de la part d'un spectateur.
Oui, c'est explicite, en fait.
C'est très explicite, ouais. C'est très immédiat. Et voilà, donc en fait, je pense que c'est pour ça que ça a l'air tellement, tellement dangereux.
Mais la peinture aussi est très subversive, en fait. Quand on regarde dans l'histoire, ce qu'on appelle souvent les avant-gardes, c'est souvent passé par la peinture. Les peintres ont souvent été ceux qui ont déclenché des renversements.
Oui, oui. Quand on voit toutes les questions liées notamment au corps et à la sexualité, ouais. À montrer, voilà, ne fût-ce que l'ombre d'une cheville, voilà, jusqu'à l'origine du monde de Courbet. Mmh. En effet, on voit que la peinture, enfin l'art, les arts plastiques ont une force explosive et politique.
Mmh. Oui, mais d'ailleurs, sur la question du corps, c'est vrai que les peintres ont, avec le corps, une liberté et une approche que le roman n'a pas toujours. En fait, la description romanesque du corps nécessite beaucoup plus d'étapes, d'intermédiaires, alors que dans la peinture, c'est immédiat.
Ça jaillit.
C'est donné, quoi.
Oui. Et c'est vrai que c'est pas facile, je sais pas ce que tu en penses, mais
décrire
un physique, moi en général d'ailleurs je n'y risque pas, parce que je suis pas certaine de savoir bien faire, et parce que je suis pas certaine que ça soit toujours intéressant. Ce que j'essaie de capter, c'est le détail qui va avoir du sens, ou le geste, ou le mouvement, mais décrire un physique, en général c'est assez accablant pour le lecteur, moi je trouve.
Comment ça se faisait? Ce que récemment je lisais, je me suis replongée dans Giono, et donc c'est une littérature beaucoup plus, qui est beaucoup plus classique évidemment que ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut lire maintenant. Et en plus, il y a à la fois des choix très très étonnants, très radicaux dans la façon de la narration, on va dire, dans le fil de la narration, mais sinon sa façon de présenter un personnage, il le décrit de haut en bas. Et du coup, je me faisais la remarque, justement, je me disais, on a perdu cette habitude de lire quand même des descriptions de 3 pages sur un visage, sur un bouton de manchette ou sur un gibus. Donc c'est vrai que c'est troublant, parce que maintenant on est plus dans l'esquisse du personnage,
dans le mouvement, le geste,
ouais, dans la silhouette, dans quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant. En fond, j'avais animé il y a quelques années un atelier d'écriture au Louvre. C'était des adultes, c'était des professeurs de lettres d'ailleurs qui participaient à cet atelier. Et en fait, je leur proposais entre autres j'avais choisi des tableaux dans le Louvre et je leur proposais que ce soit un point de départ. Alors après, il y avait des exercices différents, sur le monologue intérieur, sur la description justement. Et donc, il y avait par exemple une femme, je leur demandais de la... de la décrire, de... et c'était tout à fait passionnant, dans... parce qu'en fait, évidemment, personne ne la décrivait de la même façon, personne n'avait vu la même chose, personne ne l'imaginait de la même façon, et personne... Oui, c'est ça, pour... elle n'était plus... elle était différente, quoi. Elle était la même et totalement différente de l'un à l'autre. Donc c'est comme... c'était... un exercice assez amusant. En fait.
Oui, une subjectivité du regard, ce que l'un va voir et pas l'autre. De même que si dans cette salle, on demande à chacun d'entre nous qu'est-ce qui s'est passé, on n'aura pas les mêmes réponses suivant que c'est vous, que c'est vous, que c'est vous madame ou vous monsieur. Quoi. Et ça, c'est passionnant, la diversité des perceptions. Ça, c'est fascinant.
Ouais. Mais ça, c'est une des grandes forces qu'a le roman, c'est de laisser la liberté à chacun. Ce que ne fait pas la peinture. La peinture propose une image, le roman laisse la liberté à chacun de se faire ses propres images dans sa tête et d'imaginer Athanasia, comme on ne sait pas effectivement très bien à quoi elle ressemble, votre femme encore moins parce qu'elle n'est pas décrite du tout, donc chacun est libre de leur imaginer un physique, une allure, une façon d'être, un comportement.
J'imagine, c'est pour ça qu'à chaque fois que les gens voient le film adapté du livre, ils vous disent toujours, c'est quand même vachement moins bien
que le livre. Ouais.
C'est assez rare l'inverse, en fait. Mais surtout si vous êtes dans le sens là, parce que ça correspond jamais à ce que vous aviez imaginé. Alors vous imaginez en plus quand c'est votre livre qui passe à l'écran, là c'est terrible. C'est plus du tout ce que vous aviez imaginé, c'est horrible.
En commun aussi à vos deux romans, il y a un autre aspect qui est que la peinture vous sert aussi de point d'appui pour faire des explorations historiques. C'est-à-dire que bon, là, on est dans la période, même si la dimension historique prime pas dans le roman, mais quand même, c'est aussi l'occasion de parler de cette époque où a travaillé Georges de la Tour. Puis alors avec vous, Véronique Ovaldé, là, on part dans des grandes aventures parce que les ancêtres d'Athanasia ont vécu des épopées formidables. On revisite la Grande Peste, on part au Congo avec Savornian de Brazza. Enfin, vraiment, on est dans les grands épisodes de l'histoire, quoi. Voilà.
Oui, ben l'histoire, c'est pas pour moi, c'est pas un but en soi. Je crois qu'il n'y a rien que je déteste autant que le roman historique, avec justement chaque bouton de guêtre, de décrit. Mais nous sommes les héritiers, les enfants d'une chaîne humaine, d'une histoire, et quelquefois c'est extrêmement éclairant sur nous-mêmes. Voilà, d'où on vient, comment ça s'est fait, quelle a été l'histoire qui a déterminé qu'aujourd'hui nous sommes celui ou celle que nous sommes. Ça me passionne.
Oui, et puis là, parce que vous parliez tout à l'heure de matière, mais là, pour le coup, vous êtes parti dans l'histoire pour précisément retourner aux gestes qu'on pouvait avoir à l'époque de Georges de la Tour, à la façon dont, dans la matière de la peinture, se fabriquait, quoi.
Oui, parce qu'il y a là une dimension extrêmement physique, extrêmement charnelle, extrêmement incarnée de la peinture, et de voir comment également la liberté peut se trouver à partir de commandes et de choses aussi codifiées, aussi figées. Comment est-ce qu'on peut faire œuvre originale, faire intervenir une émotion, un imaginaire?
Donc la dimension historique, c'était aussi important dans ce roman.
Ça occupe une place parce que en fait c'est une histoire de passé et de mémoire. Hein, donc la mémoire est importante. Voilà. Les légendes sont importantes, les récits sont importants puisqu'on est fabriqué avec les récits qu'on a lus, qu'on a entendus, qu'on nous a fait quand on était enfant, les légendes qu'on nous a racontées sur notre grand-mère ou notre grande-tante. Moi, je me rends compte que j'élève mes enfants en leur racontant aussi des histoires de famille toutes plus folles les unes que les autres, qui sont en partie réelles, enfin, qui sont réelles, en fait, mais simplement, elles vont devenir légendaires par le fait que je les raconte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, du coup, ça, je prends énormément de liberté avec la réalité, et c'est avec ça qu'ils se construisent. Moi, quand j'étais gamine, on me parlait de ma grand-mère en me disant... j'ai jamais connu mes grands-parents, mais la mère de mon père, on me disait toujours, pendant la guerre, elle était partie, pendant l'exode, elle était partie avec ses 9 enfants, elle avait fait Paris-Bordeaux à pied, et en plus, elle avait les cheveux jusqu'en bas des pieds. Et alors là, vous, j'imaginais cette femme avec la chevelure là, qui marchait dans la poussière. Et je suis sûre que c'est complètement faux, évidemment. Elle a dû, elle a dû aller jusqu'à la limite de Paris, aux frontières de Paris, puis elle a dû faire rebrousser chemin. Hein. Et évidemment, j'imaginais avec 9 petits-enfants, un petit peu comme le joueur de flûte de Hamelin, vous voyez, les petits-enfants derrière, comme ça. Alors qu'elle n'avait pas 9 petits-enfants. Elle avait 9 enfants, mais ils avaient des âges très, très différents. Il y en a même un qui était à la guerre, donc il était adulte. Et du coup, mais ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui est resté ? Pour moi, c'est le profil de cette femme qui marche à pieds nus, c'est encore mieux, avec les cheveux qui volent derrière et les petits-enfants quasiment accrochés à ses cheveux. C'était ça que je voyais. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la dimension historique des choses, c'est plutôt les histoires qu'on raconte, en fait. Les histoires qu'on raconte, qu'on nous raconte et qui nous servent. Il y a un chapitre de mon livre, le dernier chapitre d'ailleurs, s'appelle « Chacune de mes vertèbres est un récit ». Il me semble que c'est ça le fondement de ce qu'on est. C'est nous sommes, nous les humains, des êtres de récit.
Et d'ailleurs, elle a une chance formidable, Athanasia, c'est qu'elle a une grand-mère qui raconte les histoires.
Il y a souvent des femmes qui racontent des histoires dans les familles. Les hommes sont souvent plus silencieux. C'est traditionnellement comme ça. Alors, c'est pas systématiquement comme ça, mais... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent que ce sont des histoires de bonnes femmes. Mmh. Parce que les femmes parlent, les femmes racontent. Les femmes aiment bien les mystères. Moi, dans ma famille, ça a toujours été délirant. C'est les gens racontaient des histoires. C'était les femmes. Les hommes ne racontaient pas d'histoires. Les femmes racontaient des histoires. Et elles... Et en fait, évidemment, il y avait toujours des mystères, il y avait toujours des énigmes, il y avait toujours des meurtres, il y avait toujours des trucs complètement délirants. Mais tu sais, je pense qu'en fait, Machinette l'a empoisonné, voilà. Donc, il y avait toujours des histoires comme ça. Et il y en a dans toutes les familles, des histoires un peu de ce genre. On aime bien se faire peur, on aime bien avoir un passé un peu exceptionnel, avoir une famille un peu avec des gens flamboyants et haut en couleur. Donc, c'est normal. On le sait, en plus, quand on les écoute, on le sait, que c'est... mais c'est pas grave, en fait, c'est pas ça qui est important.
Oui, je crois qu'une histoire, familiale, c'est une chanson de gestes, hein, c'est une épopée, et je crois que nous avons besoin d'histoires pour nous construire et pour rêver. Hein. Mmh. Ouais.
Je trouve que c'est une super conclusion. Merci beaucoup, madame. Merci à vous tous. Je voudrais quand même rappeler les titres des deux romans, donc le roman de Gaëlle Josse, L'ombre de nos nuits, qui est paru aux éditions Noir sur Blanc. Et puis le roman de Véronique Ovaldé, Soyez imprudents les enfants, c'est chez Flammarion. Et on vous retrouve en signature, j'imagine, là, tout de suite. Voilà. Merci à vous tous et toutes.